Bonjour, gens du public. Je m'appelle Jeanne Amélie et la librairie est ravie de recevoir Jean-Philippe Valette aujourd'hui pour la sortie de son nouvel album « Jean Doux et le mystère de la disquette molle » paru chez Delcourt. Philippe, vous avez connu un beau succès avec votre webcomic intitulé « Georges Clounet ». Ça marche tellement bien que Delcourt vous propose de l'éditer alors que vous l'aviez fait sans trop réfléchir, en tout cas sans penser à ce qu'un jour ça soit publié. Et donc en 2013 paraît « Georges Clounet, une histoire vraie », sans eux bien sûr. Vous y racontez les péripéties de Georges, super-héros de son état, avec une vraie liberté de ton. C'est totalement foutraque, délirant, scato, bourré d'insultes, de fautes d'orthographe et de personnages crétins, mais surtout à mourir de rire, et on est devenu fan. Gros succès en librairie, Delcourt vous demande de faire récidiver Georges l'année d'après dans un deuxième opus, au titre génial, Georges Clounet II, mi-homme, Michel. Bon, Georges Clounet, c'est bien joli, mais vous n'avez pas forcément envie de continuer dans cet univers. Donc 2 ans sont passés après cette grosse épopée orthographique de qualité. Et vous venez aujourd'hui nous parler de votre nouvel album Jean Doux et le mystère de la disquette molle. On est loin des super-héros et des tortues ninja, un peu voyous sur les bords. C'est une aventure en open space, comme il est dit sur la 4e de couverture. Donc, Philippe, est-ce que vous pouvez nous faire le pitch de Jean Doux?
Alors, ouais, le pitch de Jean Doux, c'est... comme vous l'avez dit, une aventure en open space, donc c'est en d'autres termes Indiana Jones à la Cogip, pour ceux qui connaissent Message à caractère informatif, qui était une vieille émission sur Canal+. Et voilà, donc l'idée, elle est vraiment partie de ça, quoi, de la rencontre entre une histoire d'aventure à l'Indiana Jones et un univers bureaucratique des années 80-90. Je trouvais que le mélange marchait bien. C'est à une époque où j'avais envie de faire un film d'aventure, mais j'avais pas envie de récidiver... tout ce qu'on avait déjà vu au cinéma, et je cherchais un truc un peu, un contexte original, et voilà, j'avais celui de l'entreprise en tête. Et une fois que j'ai eu cette idée-là, je me suis dit que ça valait vraiment le coup, qu'il y avait un truc à faire avec, mais ça a pris quand même 8-9 ans avant qu'on ait l'histoire finie et que ça sorte en bouquin. Parce que oui, à l'époque, c'était une idée de film.
Oui, à l'époque, c'était un film. Enfin, ouais. En tout cas, vous aviez prévu de le... Comment dire ? Pas de le sortir en film, parce que ça, il y a un processus
de
très long.
Oui, j'aurais aimé le faire en film à la base, parce que je viens du film. J'ai fait des études d'animation, je fais des courts-métrages depuis que j'ai 11 ans. Et j'étais vraiment passionné à l'époque par le cinéma. Et donc, ça, c'était des choses que j'avais achetées à Emmaüs. À l'époque, j'habitais à Lyon. Donc, j'avais commencé un petit peu à récupérer des props, des accessoires de bureau, tout ce que je pouvais. J'avais accumulé ça dans le garage de mon père. Puis, je pensais faire ça vraiment comme un court-métrage en autoprod, quoi, avec les copains. Finalement, je ne l'ai jamais fait parce qu'il y a besoin quand même de gros moyens. Les courses-poursuites dans les bureaux, il fallait du coup que je trouve des endroits, des lieux où tourner. C'était assez complexe. Et puis, j'ai bougé de Lyon à ce moment-là. J'ai déménagé à Paris. J'ai commencé à bosser dans l'animation. Donc, je l'ai mis de côté. Mais ça a toujours traîné dans un coin de ma tête, cette idée-là de faire une histoire d'aventure en entreprise. Et donc je continue à y penser de temps en temps, en espérant qu'un jour ça se fasse. Et puis, grâce à Georges Clounet, du coup, je me suis rapproché de l'univers de la bande dessinée, qui était quelque chose que j'avais pas anticipé du tout à la base. Et j'ai découvert une grosse libération en bande dessinée par rapport au film. Quand je pensais tous mes projets en film, c'était plein de contraintes et je les faisais jamais du coup, parce que j'avais pas les moyens, j'avais pas la structure, les gens qu'il fallait pour le faire. Donc j'ai accumulé pas mal de frustrations et je pense que Georges Clounet, c'est né de cette frustration-là où j'avais envie d'expérimenter, de tout faire péter, de retrouver de la spontanéité dans l'écriture et surtout du concret, quoi, d'arrêter de réfléchir, brouillonner et puis au fait, jamais finaliser mes projets. Donc ça a donné Georges Clounet. C'était vraiment ça, quoi. Une explosion. Je voulais faire un truc tout de suite, maintenant, sans réfléchir, sans me contraindre ou me relire ou tout ça, voilà.
Donc c'était vraiment pour vous, Georges Clounet.
Ouais, c'était vraiment un exercice personnel. C'était un peu un défi. Je voulais voir si c'était possible d'improviser une histoire, parce que j'avais l'habitude de beaucoup trop réfléchir et de jamais concrétiser. Et donc là, j'en ai eu marre, c'était un ras-le-bol, quoi. Je me suis juste jeté à l'eau en me disant « Allez, je m'en fous, je dessine un premier dessin. » Voilà. Bon, c'est un mec qui trouve une merde dans son salon, c'est nul. Mais on continue, et puis on va voir jusqu'où ça va. Et moi, j'avais jamais pensé le publier, hein. Même le mettre sur le blog, ça a été un peu un hasard, parce que je l'avais fait juste pour voir sur mon téléphone comment ça faisait sur un blog, parce que je voulais faire une BD téléphone, en fait, à la base. BD iPhone, vignette après vignette, comme ça. Moi, j'ai pas su faire, donc je l'ai mis sur un blog. Et puis, je sais pas pourquoi ça a commencé à être partagé par plein de gens, puis il y a eu le succès que vous connaissez, quoi. Et donc j'ai été approché par Delcourt pour le publier. Donc j'allais pas dire non, même si je pensais pas faire de la BD un jour dans ma vie. Donc j'ai dit oui, on s'est mis d'accord pour faire une fin à cette BD qu'il n'y en avait pas à l'époque sur le blog. Et au lieu de faire un bouquin de 80 pages comme c'était prévu à la base, il en fait 350 parce que j'ai pas su m'arrêter. Et que j'étais incapable aussi de me projeter en termes de nombre de pages. Quand il me demandait, mais combien il te reste de pages à faire, je n'en sais rien, je ne peux pas quantifier, j'ai ça et ça à raconter, mais je n'ai pas l'habitude de penser en pages. Moi, je pense en minutes ou en heures pour les timings de films et tout ça, mais en pages, j'étais incapable de leur faire une prévision. Donc, ils ont été hyper flexibles. On est passé, doit être 80 pages à 350, et puis j'ai éclaté la deadline aussi de un mois et demi, je crois. Et au final, bon, voilà, ça s'est fait.
Donc ils y croyaient vraiment, parce que c'était quand même votre première BD.
Mais apparemment, ils suaient pas mal quand même. En interne, ils me disaient rien, ils me laissaient dans ma bulle. On va le laisser tranquille, un peu lui mettre de stress. Et apparemment, ils se faisaient un peu taper sur les doigts, les éditeurs, et par le grand patron.
Et donc ça a très bien marché, ça a donné un numéro 2 que Delcourt vous a demandé aussi ?
Oui, simplement, ils m'ont demandé si j'étais chaud, si j'avais une idée pour faire un 2. Et j'avais donc cette idée de Michel qui devenait un robot qui détecte les fautes d'orthographe. Pour faire une sorte de mise en abîme de l'univers du premier. Donc voilà, vu que j'avais ce truc-là en tête, j'ai dit ok pour faire un tome 2. Et voilà, ça m'a permis de me rassurer aussi et de valider le fait que je pouvais faire une bande dessinée. Et du coup, là, en faire un peu comme une commande aussi. Pas comme le premier où c'était parti vraiment de l'impro. Donc voilà, je suis parti de l'impro et de la libération totale pour le premier. Donc, ça m'a fait du bien, je me suis réconcilié avec le dessin. Voilà, où j'ai accepté de faire des dessins moches et pourris, tout ça. Retrouver du plaisir, en fait, tout simplement, en faisant les choses. La spontanéité. Et puis le 2, ça m'a permis voilà, de me rabibocher un petit peu avec ça, en y remettant un peu plus de structure dans l'histoire, en essayant de la prévoir un peu plus en avance. Et ça m'a amené, tout simplement, voilà, à avoir le courage nécessaire pour m'attaquer à ce projet qui me tenait à cœur depuis longtemps, quoi. Le Jean Doux.
Alors avant de parler de Jean Doux, est-ce que vous êtes aussi grossier que Georges Clooney dans la vie ?
Ça dépend du contexte.
Et votre insulte préférée, vous en avez une ?
J'aime bien sale chèvre, je ne sais pas pourquoi, donc c'est pour ça que j'ai essayé de le placer pas mal dans Georges Clooney, je voulais l'immiscer dans la tête des gens, j'aime bien dire sale chèvre.
Bon, on est quand même là pour parler de Jean Doux. Moi, je voulais savoir pourquoi vous vouliez absolument placer l'action dans les bureaux d'une entreprise. Est-ce que c'est une critique du monde du travail ou c'était juste une bonne base pour faire commencer une histoire ?
Je trouvais que c'était déjà quelque chose d'original, simplement. J'avais jamais vu une histoire d'aventure en open space. Et puis en plus, ça permet d'avoir tout de suite un décalage par rapport au ton d'un récit d'aventure. Ça a amené de la parodie, de l'humour, j'aime bien, voilà, ça donne de la légèreté au récit. Et je sais pas, j'avais une sorte d'attachement, une sensibilité à cette époque-là, les années 90, et puis le début de la micro-informatique, je regarde pas mal de documentaires là-dessus, c'est une époque qui m'intéresse bien, j'aimerais bien me refaire un bureau chez moi avec de la moquette, des vieux ordi gris, beige, je sais pas, je trouve que ça me rappelle mon enfance en fait, donc il y a un truc nostalgique un peu de cette époque-là, ouais.
Et
oui, aussi, ça permet de commencer le récit en l'ancrant dans quelque chose d'assez contemporain et réaliste, entre guillemets, donc le milieu du bureau qu'on connaît tous, et ensuite de petit à petit partir dans le fantastique. J'aime bien quand un récit est progressif comme ça, que ça commence pas tout de suite dans quelque chose de complètement décalé. Alors, on ancre dans le réel et on va petit à petit aller dans des trucs un peu mystérieux, un peu comme dans la peau de John Malkovich, où le mec il trouve un passage entre deux étages, enfin voilà, c'est de progression, quoi, d'Alice au Pays des Merveilles, un peu.
Et vous avez déjà travaillé en open space, parce que vous maîtrisez quand même très très bien les codes de l'entreprise, l'informaticien aux cheveux gras, ce genre de choses.
Ouais, alors je bosse en open space, mais c'est pas exactement ce genre d'ambiance, que je bosse dans des studios d'animation, du coup, donc c'est des grands espaces de bureau. On a effectivement des gens qui gèrent le parc informatique, et ils sont un peu de ce genre-là aussi. Mais aussi, je me suis nourri de pas mal de choses que je lis ou que je regarde, des séries comme The Office, Parks and Recreation, toutes ces choses-là. Ouais, c'était des bonnes inspirations, et c'était des choses que j'avais pas à l'époque où j'avais commencé à l'écrire en film. L'inspiration, c'était vraiment Indiana Jones et Messages à caractère informatif. Et le fait d'avoir attendu 8-9 ans pour le faire, bah, y a plein d'autres choses qui se sont greffées et qui ont pu étoffer un peu l'univers et l'histoire.
Alors, vous parliez des années 90. Moi, j'avais noté une citation, ça m'a fait mourir de rire, mais bon, comme beaucoup de choses dans l'ouvrage. Alors, ouvrez les guillemets. Vous pensez que dans 20 ans, les gens se moqueront des années 90 ? Je vois pas ce qu'ils pourront trouver ça de drôle. On a atteint le sommet de la chaîne vestimentaire. On s'est quand même pas mal moqué des années 80. Moi, je pensais vraiment que c'était une critique des années 90, mais finalement, vous m'avez un petit peu répondu en me disant que vous aviez plus un attachement aux années 90 et que c'était pas une critique. Vous n'avez pas été vraiment traumatisé par les années 90.
Bah, après, je peux y être attaché et avoir la nostalgie, mais tout en étant aussi critique avec les couleurs et les styles vestimentaires qui étaient quand même assez extrêmes. Je pense que c'est un moment où on a touché le plafond, effectivement, de la chaîne vestimentaire. Et maintenant, on fait que redescendre et on s'est un peu plus calmé, quoi, parce que là, ils avaient nos limites à l'époque, quoi. Au niveau des couleurs et des motifs, c'était vraiment furieux.
Oui, parce que on a un petit peu de recul quand même maintenant, je trouve, sur la décennie des 90s. Et, et maintenant, je trouve qu'on se moque autant des années 90 que des années 80.
Oui, complètement. Ouais.
J'avais vu aussi que le titre, le premier titre que vous aviez donné à Jean Doux, c'était Ctrl Z, c'est ça ?
Complètement, oui.
Vous pouvez nous en dire plus ?
Ça faisait écho à l'univers des années 90 et la micro-informatique, le Ctrl Z. Et puis il y avait toute une symbolique aussi à l'époque. Enfin, je suis parti dans plein de directions. Il y a 8-9 ans, c'était un peu la première fois que je m'attaquais à un gros scénario. Donc j'avais plein d'idées, plein d'intentions, des choses un peu contradictoires. Et j'ai fait le tri depuis. Et c'est devenu beaucoup plus simple, mais ouais, faut pas trop que je spoil, donc je vais pas en dire plus.
Non, parce que c'est vraiment une BD d'aventure pure et dure. C'est un espèce d'Indiana Jones. Hein, vous êtes beaucoup inspiré d'Indiana Jones. Et... En fait, la force de ce bouquin, c'est que vraiment, il nous prend dès le début et on a envie à chaque fois de tourner les pages, de tourner les pages. Il y a un vrai rythme narratif. Moi, je trouve, vous avez vraiment réussi à dérouler un fil. Il y a un fil, un espèce de câble dans Jean Doux, vous verrez. Et vous, vous avez réussi justement à dérouler le câble avec le lecteur et qu'on essaye de voir jusqu'où Jean Doux va. Comme Indiana Jones, on est pris avec son fouet et on est pris jusqu'au bout. On veut savoir s'il va trouver le Graal, on veut savoir ce qui va se passer, absolument. Je trouve que, ouais, il n'y a pas de temps mort. Vous avez vraiment travaillé sur ça, essayé de synthétiser, alors que c'est quand même 300 pages. Hein.
Oui, bah alors je ne m'étais pas fixé un nombre de pages au départ. J'ai simplement structuré l'histoire de façon très schématique. Pendant 2 mois, j'ai mis toutes mes idées en ordre. J'en avais plein, donc j'avais un carnet rempli d'idées que j'avais triées entre elles, les idées de décor, les idées de perso, les idées de dialogue, les idées d'action, les idées de trouvailles, découvertes, enquêtes, tout ça. Et ensuite, je les ai assemblées entre elles comme un grand puzzle, avec plein de post-it, donc j'aurais pu le faire sur ce mur-là, où je mettais toutes mes idées ensemble, donc une idée de lieu avec une idée de personnage, une idée d'action, et j'essayais de bien répartir le récit et l'enquête. Parce que ce qui est compliqué dans ce genre d'histoire, c'est qu'il faut qu'on donne suffisamment d'indices pour que le lecteur perde pas le fil, mais en même temps qu'on n'en donne pas trop non plus pour pas griller la surprise des autres révélations qui vont arriver plus tard. Donc voilà, il y a eu 2 mois où j'ai vraiment simplement structuré le récit. Alors sans rentrer dans le détail, hein, c'était juste scène 1, Jean Doux arrive en retard. J'en disais pas plus. Après, scène 2, il va en réunion, il se fait pourrir par son patron parce qu'il est en retard. Scène 3, voilà. Et ensuite, j'ai commencé le découpage, donc c'est ce qu'on voit là, les toutes petites vignettes. Donc à partir de cette structure-là, en post-it, j'ai attaqué au brouillon. Et là, je déterminais la façon dont ça allait être découpé et les dialogues que j'improvisais à ce moment-là aussi. Ça, c'est une étape qu'il n'y avait pas du tout eu pour George Clooney, par exemple. J'avais commencé directement au feutre et j'improvisais case après case ce qui allait se passer, quoi. Donc je relisais, puis des fois, je corrigeais un petit peu, je rajoutais des trucs et tout. Mais je n'ai pas passé par cette étape de brouillon, alors que là, Jean Doux, les 300 pages, je les ai d'abord fait comme ça, quoi. Donc j'ai relu la BD plein de fois... en faisant plein d'ajustements et plein de corrections pour que ça soit vraiment nickel et que tout soit bien structuré et du coup simplifié, comme tu disais, pour pas qu'il y ait de temps mort, qu'il n'y ait pas d'incompréhension, qu'il n'y ait pas de redite. Et ça, c'était un truc, je m'en suis rendu compte en le faisant, c'est que en commençant l'histoire, j'avais tendance à vouloir trop en dire pour être sûr qu'on comprenne bien l'idée. Et ensuite, en avançant, je me rendais compte qu'il y avait des choses que je redisais, qui étaient peut-être mieux à placer à ce moment-là. Donc je revenais en arrière et je les enlevais, je simplifiais la scène d'avant en me disant « Non, mais ça, je le redis plus tard, donc c'est cool. » Mais vu que je savais pas que j'allais le dire plus tard, voilà, j'en faisais un petit peu trop. Puis à chaque fois, j'avançais, puis je relisais, j'enlevais des trucs en me disant « Non, ça, c'est un peu mieux dit plus tard, machin. » Voilà, donc je simplifie, j'épure et tout. Donc voilà, c'est vraiment un boulot qui est fait petit à petit, quoi. C'est vraiment de la sculpture, en fait. Où tu es d'abord dans la masse, où tu essayes de faire une forme générale de ton récit, et puis après tu viens faire les détails et les ajustements. J'ai vraiment cette image-là en tête, quoi.
Donc c'était un storyboard sur post-it.
Ouais, c'est okay. Ça.
entre Georges Clooney et Jean Doux, il y a quand même un monde d'écart. Ça veut dire que vous laissez toute liberté pour changer de style à chaque fois. Vous voulez aller autre part graphiquement dans vos futurs projets.
Ouais, complètement. Ouais. En fait, j'ai pas de personnalité graphique, je trouve. J'ai des copains qui sont des très bons dessinateurs et qui ont un style et qui le font évoluer, mais qui restent dans un style. Et moi, j'ai pas ça. Alors, ça a été une souffrance pendant longtemps parce que j'avais l'impression d'être nul. Mais au final, maintenant, je l'accepte un petit peu plus et je me dis simplement que je le change en fonction de ce que je veux raconter. Donc, je l'adapte. Pour Georges Clooney, c'était cohérent de faire ça comme un enfant de 5 ans et de faire n'importe quoi avec des feutres. Pour celui-ci, j'ai fait quelque chose d'un peu plus clean, mais qui restait agréable à faire aussi, parce qu'il fallait pas que je rentre trop dans le détail, déjà qu'il y avait 300 pages à faire, et ça m'a pris un an et demi, donc si j'avais fait un truc plus compliqué, voilà, je pense que je serais toujours dessus, là, en train de pleurer. J'aurais jamais fini. Et j'ai d'autres projets, d'autres histoires en tête depuis pas mal de temps, et j'avais même commencé à le faire en BD, c'était là, en noir et blanc, ça se passe dans l'espace, sur la Lune, c'est assez sérieux, et donc c'est de la peinture. En noir et blanc, j'ai pas d'image là sur moi à vous montrer, à part si on a accès à Internet.
Je crois pas.
Non, non, voilà, tant pis pour vous.
Donc le prochain, ça sera un livre sérieux ?
Je sais pas encore sur quoi je vais partir, mais j'ai beaucoup envie de faire de la science-fiction.
Et mais ce projet-là, justement, il est assez développé déjà, ou c'est alors, juste une esquisse de ce que vous...
Il était quasi fini. Je l'avais fait dans un carnet Moleskine. J'avais tout dessiné. C'était une histoire assez courte. Je dirais qu'elle dure 15 minutes parce que je sais pas parler en termes de pages, donc je vais continuer à parler en termes de minutes. Si c'était un film, ça durerait 15 minutes, ça serait un petit court métrage d'un cosmonaute qui est échoué sur la Lune et qui a plus que 15 minutes d'oxygène dans son sac, et qui, si du coup il est entre la vie et la mort, et c'est ces 15 dernières minutes où il sait qu'il va mourir, en même temps il est encore vivant, et c'est ce moment un petit peu étrange là où il essaye de trouver du sens à ces dernières minutes. Voilà, c'est un peu badant.
Et vous avez envie de développer ça ?
Alors ouais, une fois que j'ai eu fini cette petite histoire-là, donc je l'ai quasiment peinte en entier, j'ai tout dessiné mais j'ai pas fini de peindre les dernières cases, c'était il y a déjà 4-5 ans que j'avais fait ça, donc c'est un peu vieux. J'avais commencé à écrire la suite parce que la fin était ouverte, ça finissait sur un truc un peu fantastique où il n'était pas vraiment mort. Et j'avais commencé à ébaucher une suite comme un film, en fait, un long métrage du coup. Donc c'est peut-être que je le ferai en bande dessinée en entier un jour aussi.
Je suis sûre que Delcourt sera d'accord.
Ouais, on verra.
Et autant dans Georges Clooney que dans Jean Doux, on sent qu'il y a des vraies influences cinématographiques. En tout cas, dans le cadrage. Bon, après, influence cinématographique avec Indiana Jones pour Jean Doux, c'est sûr. Est-ce que c'est surtout le cinéma qui vous a bercé plus que la bande dessinée ?
Ouais, complètement. Ouais. J'ai lu de la BD comme tout le monde, gamin, les Astérix, les Lucky Luke, Tintin, tout ça. Dans mes études aussi, je suis resté assez proche de la bande dessinée, vu que j'ai fait un bac art appliqué. Voilà, on lisait un peu les trucs de l'époque, l'association, tous ces trucs-là, on se passait les BD avec les copains. Mais j'étais pas un passionné de BD du tout, je le suis toujours pas d'ailleurs. Et effectivement, donc, j'étais passionné plus par le film, le cinéma, depuis gamin. Vraiment passionné très très fort, quoi. Donc je faisais des courts-métrages depuis mes 11 ans, on faisait 2 films par an avec les copains, on en a fait une vingtaine entre nos 11 et nos 18 ans, quoi. Et je voulais vraiment faire ça plus tard. Finalement, je me suis un petit peu réconcilié avec le dessin en faisant des études de cinéma d'animation, donc j'ai fait du film d'animation, tout ça, donc c'était un peu un grand écart entre les deux, quoi, le dessin et le cinéma. Mais ma façon de raconter, elle est beaucoup plus empreinte d'un découpage cinématographique, et c'est pour ça que je fais pas de mise en page, comme une BD classique où on a des cases qui sont petites, grandes, pleines pages, qui se superposent les unes sur les autres. Je fonctionne pas du tout comme ça. Alors c'est pas que c'est une critique, hein, je dis pas que c'est pas bien, mais dans ma tête c'est vraiment découpé comme dans un film quand je pense à une histoire, donc c'est vraiment un format de cases unique. Et simplement faire varier le cadrage, en fait. Si on est plus proche ou moins proche des personnages, où est-ce qu'on place la caméra. Enfin, vraiment, je le pense comme une caméra et je suis incapable de penser autrement. Comme je disais, que je suis incapable de penser en nombre de pages et je pense en minutes, c'est pareil pour mes cadrages. Et je l'ai fait un peu de façon naïve sur Georges Clooney, parce que c'était comme ça que je pensais, donc je ne me suis pas forcé à penser autrement. Maintenant, j'ai pris du recul là-dessus, j'ai pris conscience aussi, voilà, je l'avais fait parce que j'étais influencé par le cinéma, donc j'aurais pu me forcer à essayer de faire quelque chose de plus BD. Mais au final, c'est une vraie volonté de ma part maintenant de rester proche d'un découpage cinématographique, parce que je trouve que en termes de rythme, ça apporte vraiment quelque chose. Quand on lit,
je suis entièrement d'accord.
Mes BD, j'ai l'impression qu'il y a plus, il y a plus une sensation de rythme que les BD traditionnelles où c'est un peu chaotique des fois. On est un peu paumé. Alors c'est très beau, s'ils font des belles mises en page, tout ça, c'est plus graphique. Mais par contre, en termes de narration et de rythme de narration, je trouve qu'on perd un petit peu. Donc voilà, maintenant j'essaye de vraiment rester dans mon style.
Oui, et les cases font penser à des formats 16/9 en fait, 4 tiers ou 16/9, ça dépend. Voilà. Et ça donne cet objet en format à l'italienne.
Exactement, ça a été un peu une bataille ça avec Delcourt. Oui. Ils n'étaient pas chauds à la base de faire un bouquin dans ce format-là. Ils voulaient rester dans le truc traditionnel, vertical. Parce que leur argument, c'était « oui, les libraires, ils aiment pas, ils savent pas quoi en faire, après, ça rentre pas dans les armoires et tout ça. » C'est vrai ou pas?
Oui, c'est vrai, mais celui-ci, ça va quand même. Le format est relativement correct.
Bon, c'est cool.
Non, il y en a qui sont beaucoup plus difficiles à ranger. Des très, très, très grands formats, c'est compliqué.
Moi, je pense qu'on a trouvé le bon équilibre, là. J'aime bien la taille de ce bouquin, le rapport taille et épaisseur du livre, il est agréable, je trouve.
Oui, avec une jolie couverture... avec le titre gaufré, doré. Ouais, voilà, ça fait vraiment le bel ouvrage.
Ça, c'est des propositions de mon éditrice, du coup, chez Delcourt, qui a vraiment cru à cette histoire et qui avait envie de porter le bouquin au maximum, quoi. Donc, elle a vraiment fait tout ce qu'elle pouvait pour qu'on ait un bel objet à la fin. Et je suis vraiment hyper content de la couverture, de la qualité du papier, de l'impression, de la petite dorure, là. C'est chambé. La première fois que je l'ai vu en vrai fini, là, j'ai vraiment eu... grosse émotion, une sensation d'accomplissement que j'avais pas eue avec Georges Clooney, qui s'était fait vraiment de façon un peu hasardeuse et spontanée, et puis bon, le bouquin, l'objet était pas forcément hyper beau, et là on dirait une vraie BD quoi.
C'est une vraie
BD. On dirait une vraie.
Et pour rester dans le cinéma, je voulais savoir quel film vous avez influencé ou quel réalisateur, c'est quoi votre truc, à part Indiana Jones bien sûr.
Il y en a vraiment beaucoup je pense. J'aime bien le cinéma assez classique, où on ne fait pas trop attention à la mise en scène. J'aime pas quand les caméras elles virevoltent dans tous les sens, parce que je trouve que ça sort un petit peu du film. On est trop conscient qu'il y a un mouvement de caméra ou qu'il y a un montage et tout ça, et je préfère quand on est assez sobre. Le dernier réalisateur que j'aime beaucoup, c'est Marc Lavallée, le réalisateur canadien qui a fait Crazy, Dallas Buyers Club.
Oui.
Et le dernier qu'il a fait, c'est Démolition, qui est un film introspectif qui est vraiment, vraiment très très beau. Je conseille à tous de le regarder.
Et Indiana Jones, vous le connaissez par cœur.
Ouais, les trois. Et le 4.
Et le 4. Alors on peut en dire un peu plus
on
pour le 4.
On peut en parler, complètement. Ouais.
Alors dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait?
Et bien, du coup, j'ai été très très déçu par Indiana Jones 4, comme tout le monde, je pense. Et j'ai pas pu accepter que ce film existe. Je voulais pas vivre dans un monde où il y avait un Indiana Jones 4 aussi pourri. Donc du coup, je l'ai remonté. J'avais acheté le DVD, j'ai numérisé. Et j'ai essayé d'enlever tous les passages nuls, qui étaient crépis dans le film. Voilà, j'ai trouvé que l'histoire générale était sauvable. Il y avait quelque chose d'intéressant, mais que toutes les 5 minutes, il y avait une mauvaise blague, une scène d'action complètement over the top, hyper cartoon, pas du tout dans l'esprit, machin. Donc voilà, j'ai voulu tester, voir si c'était possible de sauver le film. Donc ça m'avait pris 3-4 jours à enlever par-ci, par-là, alors des fois des scènes en entier qui étaient nulles à chier, des fois juste une ligne de dialogue qui me faisait pas marrer du tout. Et au final, j'ai raccourci le film de 20 minutes, je pense. Bon, il durait assez longtemps, il durait presque 2 heures, donc maintenant ça fait un film de 1h40. Et je le montrais à mes potes, et ils trouvaient ça cool. Et j'en ai parlé pour un interview à Combini il y a quelques mois, et du coup, sur Internet, plein de gens m'ont sollicité en disant « on aimerait le voir ». Donc du coup, je l'ai refait, parce qu'à l'époque, j'avais fait ça sur un RIP DVD, donc qualité vraiment moyenne. Je l'ai retéléchargé en Blu-ray, j'ai refait le montage nickel, au propre, en HD, tout ça. J'ai même refait des effets spéciaux à certains moments. Parce que je coupais des trucs, donc il fallait que je raccorde autrement, et je me suis fait chier à incruster une bagnole qui tombe du haut d'une falaise et tout ça. Et je l'ai mis sur Internet. Donc pour l'instant, j'attends un coup de fil des avocats de Steven Spielberg, mais pour l'instant, c'est rien passé. Et voilà, donc si vous voulez le voir, il est sur mon blog. Et il dure 1h40, et je pense qu'il est cool. Il est mieux, en tout cas.
Et il a eu la bonne idée de mettre les sous-titres en anglais au moins.
Et en français aussi maintenant.
Ah, et en français,
ouais, on peut choisir. J'avais mis en anglais au début et après je me suis fait chier à les faire en français.
Ouais.
Donc voilà, on peut choisir maintenant, c'est une vidéo YouTube et tu peux choisir français ou anglais.
Et alors là, j'aimerais qu'on discute un peu des références que vous avez eues pour traiter un peu Jean Doux. Et l'une des plus grosses références, mais vous l'aviez dit au début, en fait, c'est Messages à caractère informatif qu'il y avait sur Canal.
Ouais.
Et j'en ai regardé quelques-uns pour me remettre un petit peu dans le bain, parce que j'aimais beaucoup aussi. Et je suis tombée sur l'un d'entre eux où il y avait Jean-Patrick, et il y avait Jean-Daniel, etc. Et dans Jean Doux, justement, tout le monde s'appelle Jean-Patrick, Jean-Daniel, Jean-Yves, etc. Bon, j'ai trouvé ça hyper drôle. Et comment vous est venue cette idée? Qu'est-ce que vous aviez voulu dire?
Bah, je trouve que c'était un petit peu... je trouve que les gens, quelque chose, Jean-Marc, c'est vraiment des noms qui sont de cette époque, quoi. Années 90, moi, tous mes oncles ou cousins qui sont un peu plus vieux que moi s'appellent tous Jean-Marc, Jean-Pierre. Donc, vu que ça se passe dans les années 90, je me suis dit, OK, c'est parfait. Tout le monde va s'appeler Jean quelque chose. Ça va donner quelque chose d'original à cette BD-là aussi. Ça va faire rire les gens que tout le monde s'appelle Jean machin, Jean bidule. Et puis aussi, ça permet, je trouve, de symboliser un petit peu une sorte d'atrophie de la personnalité où tous les personnages dans l'entreprise, c'est un peu tous le même gars, en fait.
Oui, on est tous des moutons.
C'est un petit rouage, voilà. Tout le monde est un petit rouage dans une grosse machine. Et au final, l'individu, il est plus très important. Voilà, c'était pour
signifier. Et même le
ça.
Chien de Jean-Yves s'appelle Jean Yinche.
Ouais.
alors, moi, j'ai un questionnement très féminin.
Ah.
Je l'ai noté. Bon, on dit grosse voiture, petit attribut masculin. Est-ce que l'adage se vérifie aussi avec la cravate dans Jean Doux? Parce que la cravate a quand même un sacré rôle là-dedans.
Ouais.
Et ben, y a quand même une sanction dans cette entreprise, c'est que quand vous ratez justement la réunion du début, Jean Doux rate la réunion, il se fait couper la cravate.
Il se fait raccourcir la cravate.
C'est un peu les masculés, il y a quand même un lien.
Oui, complètement, ouais. Je trouve que la cravate, je pense que c'est un truc qui est très phallique. Je me suis renseigné un petit peu pour savoir d'où ça venait et à quelle époque c'était apparu la cravate, parce que c'est quand même hyper bizarre de se faire pendre un bout de tissu là. Quand on y pense, on a l'habitude maintenant de voir une cravate, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai rien trouvé en fait. Et je trouvais que c'était génial de symboliser ta place et ta hiérarchie dans la boîte par la longueur de ta cravate, quoi. Que du coup, juste d'un coup d'œil, tu dis, lui, il rigole pas, ouais. Grosse cravate, va falloir faire gaffe.
Ouais, mais comme on dit, hein, grosse cravate, petit...
Voilà. Et voilà. Pour les filles, j'aurais pu le faire avec la taille des talons aussi.
Ah oui, c'est vrai.
Ça raboter le talon.
Et ça serait quoi, gros talon, petit sein?
Non, simplement la place dans la boîte, quoi.
Et comme l'histoire se déroule dans une entreprise de broyeuses à papier, est-ce que vous avez fait des vraies recherches sur ça?
Ouais.
Puisque, en fait, bon, ça, on ne l'a pas trop dit, mais l'intrigue est quand même autour d'une broyeuse à papier qui...
Légendaire.
Voilà, légendaire. Alors, dites-nous en plus.
Mais du coup, comme tout bon aventurier, il fallait qu'il y ait un Saint Graal, qu'il fallait qu'il y ait un objet mythique à retrouver. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce que ça pourrait être le Saint Graal d'une boîte des années 90. Donc je voulais quelque chose d'un peu iconique, une imprimante, un stylo 4 couleurs, je ne savais pas trop exactement sur quoi j'allais partir au début. Il y avait cette idée de la broyeuse aussi. Donc je me suis renseigné pour voir s'il y avait un historique un peu intéressant sur différents objets, même rien que l'ordinateur ou le portable. Enfin, je ne savais pas trop sur quoi j'allais partir au début. Et il s'avère que l'histoire de la broyeuse à papier est juste incroyable, hyper intéressante, et il y a une vraie légende, presque, des vrais mystères autour de l'invention de la broyeuse. Et puis par rapport à mon histoire aussi de rachat, de contrat, je trouvais que c'était très évident, en fait, je veux pas spoiler, en fait, c'est compliqué, parce qu'il y a des gens qui l'ont pas lu, donc du coup, je veux pas trop en dire, enfin bon, voilà. Broyeuse, contrat, destruction, tout ça, voilà, c'est assez symbolique.
Mais Jean Doux, en fait, retrouve, donc au tout début de l'histoire, pour raconter un tout petit peu l'intrigue, l'entreprise de Jean Doux vient de se faire racheter, il a loupé la réunion, ils se font tous virer, et Jean Doux va
il
culpabilise.
Parce qu'il s'est dit que s'il avait été là à la réunion, peut-être qu'il aurait pu voir l'entourloupe arriver, là.
Et il va se retrouver à fumer une cigarette dans un vieux débarras où personne n'est allé depuis des années. Et finalement, il va trouver un peu par hasard, et ça je ne vous explique pas, il va trouver une mallette avec une disquette molle. Et dessus, c'est marqué « Abbott Augustus Law ». Alors c'est voilà. Qui cet Abbott Augustus
Law ? Alors là, c'est un vrai mec qui a vraiment existé. En fait, pour l'historique de l'invention de la broyeuse à papier, l'invention est attribuée à un Allemand qui aurait inventé ça pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1935, je crois exactement, qui s'appelait Adolf Ehinger, un autre Adolf de la Seconde Guerre mondiale. Et donc lui, c'était pas un nazi, c'était l'inverse. Il faisait des tracts anti-nazis, en fait, à l'époque. Et il avait les paperasses qui ne servaient pas, il balançait ça à sa poubelle. Et un jour, il s'était fait pincer par un de ses voisins, qui avait vu les tracts anti-nazis, toute la propagande anti-nazis dans ses poubelles, et qu'il avait menacé d'aller le dénoncer, tout ça. Donc il s'est dit, ok, comment je peux faire pour détruire tous les trucs que je génère, là, pour mes propagandes anti-nazis, et qu'on me chope pas. Et du coup, il a inventé la broyeuse en s'inspirant d'une machine à pâte, avec la manivelle, là, où tu mets ta pâte dedans, puis ça sort, ça fait des spaghettis. Il a fabriqué ça, le mec c'était un bricoleur, je crois que son métier c'était réparateur d'objets ménagers, tout ça. Donc il avait un atelier, il a fabriqué sa première broyeuse. Et puis quelques années plus tard, il a déposé le brevet, il s'est dit, tiens, peut-être qu'il y a des thunes à se faire avec cette invention-là. Donc il a commencé à les vendre à différentes administrations de sa ville, puis après de son pays. Et puis après c'est devenu une boîte internationale, quoi, où il vendait des broyeuses à plein d'administrations autour du monde dans les années 40-50. Et ça s'est démocratisé, il y a eu plein de boîtes maintenant dans le monde qui en font, des broyeuses, quoi. C'est un truc qui est toujours présent d'ailleurs dans notre société. Sauf que, avant lui, il y a des gens qui ont retrouvé le brevet d'une autre broyeuse à broyer les papiers, qui a été déposée en 1909, donc presque 40 ans avant, aux États-Unis. Et le mec s'appelait Abbott Augustus Law, c'était un inventeur de la banlieue new-yorkaise, qui vient d'une famille assez aisée, parce que c'était le frère du maire de New York à l'époque, et le fils de l'ancien directeur de la Columbia Institute, enfin une grosse université américaine. Et lui, c'était un petit peu l'inventeur foufou de la famille qui vivait en dehors de New York. Il avait une grosse usine de sirop d'érable, et il passait son temps à inventer des trucs, des moteurs, des lacets, des bouchons pour les bouteilles d'érable, de sirop d'érable, un broyeur à papier, et puis il posait des brevets en fait, mais il n'en faisait rien, il posait juste des brevets, il kiffait inventer, posait le brevet, il inventait autre chose, machin. Et ce mec-là est le deuxième détenteur de nombre de brevets déposés, c'est un recordman, après Thomas Edison, qui lui est le gars qui a inventé le plus de choses, qui a déposé le plus de brevets, et le deuxième gars est complètement méconnu, c'est lui, Abbott Augustus Law, qui a inventé la broyeuse à papier en 1909, sauf qu'il ne l'a jamais commercialisé, donc ça a disparu. Et donc je me suis servi de toute cette histoire-là pour construire ma mythologie de la broyeuse, quoi. Où tous les gens qui bossent dans cet univers de la broyeuse à papier chez Privatech, donc avec Jean Doux, pensent que donc c'est le mec dans les années 40 qui l'a inventé pendant la guerre. Et puis un jour ils apprennent que, en fait, non, peut-être qu'il y a un autre mec avant qui aurait inventé une broyeuse absolument mythique avec des propriétés de broyage complètement over the top.
Ouais, c'est surtout qu'il y a un maximum de niveaux.
Ouais. Et ça, c'est
connu.
Un vrai truc aussi.
C'est le niveau 6. Et finalement, cette broyeuse mythique arriverait au niveau 12.
Donc eux, ils se disent, incroyable. Mais c'est pas possible, une broyeuse de niveau 12, c'est du jamais vu, impossible.
Alors j'ai noté dans la BD la découpe croisée en particules de 4 mm carrés.
Ouais.
Donc je sais pas si c'est le niveau 6 ou niveau 12, celui-ci.
C'est niveau 6, ça.
Ça ouais. Fait rêver.
Et ça existe vraiment, les broyeuses, elles sont classifiées de 1 à 6, et plus tu montes, plus ça découpe en petites particules, en fait, pour ton document, quoi. Si c'est un document classé top secret, faut que tu fasses péter la broyeuse de niveau 6. Ouais.
Il y a une organisation du pot de Noël chez Jean Doux, dans la BD de Jean Doux.
Ouais.
Donc ce sont tous ses collègues qui ont décidé de faire une petite fête, et elle est intitulée Gourde et Chaussettes. Parce que la dernière fois qu'ils ont fait une petite fête, ils ont
ruiné
la moquette, etc. Donc là, au moins, on est sûr de ne pas mettre de champagne par terre, etc. Moi, ça m'a clairement fait penser aux épisodes de Noël de la série The Office que je vénère.
Ouais, ouais.
Et c'est bien ça, vous êtes bien inspiré de The
Office pour ça.
Ah oui, complètement.
Ouais, ouais. Je pense qu'ils sont vraiment forts pour ça. Mais je pense aussi qu'il n'y a rien de plus triste que fêter Noël dans sa boîte, quoi. Tout ce qui est événement un peu famille, quand tu l'amènes dans l'univers de la boîte, c'est vraiment badant. d'avoir juste un pauvre sapin dans un coin, une guirlande. Il n'y a jamais grand-chose en fait, c'est un peu pauvre. Donc là, je trouvais ça vraiment triste de leur faire fêter Noël en chaussettes, avec des gourdes, pour boire du champagne. C'est vraiment la désacralisation totale de la fête de Noël. Et puis rien que le mot le soirée gourdée chaussettes, ça sonne bien, quoi.
Et on est en plein dans l'humour, justement, avec The Office. C'est quoi vos références en matière d'humour ?
Ah oui, The Office, complètement. Ouais. J'ai découvert assez tardivement, et je l'ai maté deux fois, je pense, tous les 9 saisons. Ouais.
Moi aussi.
Ouais. C'est vraiment, vraiment génial.
Et alors, qui vous fait rire ou qu'est-ce qui vous fait rire ? Je sais pas, des films ou des humoristes ?
Beaucoup, beaucoup les Américains, malheureusement. Ouais, je bouffe énormément de séries américaines et de comiques américains. Mon comique préféré, il s'appelle Louis C.K. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ce gars-là.
Ouais.
Et je pense que c'est le mec le plus marrant en ce moment. Depuis bien 4-5 ans, tous ces one-man shows sont incroyables. Il est vraiment à mourir de rire, ce gars. Alors, je sais pas si on peut trouver ces spectacles sous-titrés français. Et si vous êtes assez à l'aise pour les écouter en anglais, c'est génial. Il est vraiment très, très fort.
Mais il y a une série avec lui, d'ailleurs.
Ouais, qui s'appelle Louis.
Oui.
Mmh. Tout simplement, qui est écrite par lui. Et c'est presque autobiographique. Et c'est génial aussi, cette série est vraiment, vraiment superbe. Il s'intéresse à plein de choses. Il y a des épisodes qui vont parler d'autres trucs, pas forcément de lui. Il se permet plein, plein de choses. C'est vraiment la série la plus libérée, je trouve, à la télé en ce moment.
Vous disiez tout à l'heure que vous veniez de l'animation, mais vous avez plusieurs casquettes en fait. Vous faites de la BD, vous avez fait donc de l'animation, vous étiez dans la pub, les jeux vidéo, etc.
Mm-hmm.
Vous êtes un peu multitâche.
Mm-hmm.
Mais parmi toutes ces casquettes que vous endossez, il y a quand même un lien entre tout ça, c'est raconter des histoires.
Ouais, ouais, exactement.
C'est vraiment ce qui vous anime ?
Ouais, ouais, ouais. J'ai fait le tri justement ces dernières années en essayant de remettre les choses dans l'ordre dans ce que j'aime faire. Parce que du coup, je fais beaucoup de choses, comme tu l'as dit. Et en fait, le point commun, c'est de raconter des histoires et d'inventer des univers, quoi. Donc je pense que c'est ça qui me plaît. Et j'ai remis ça en priorité aussi dans ce que je fais. C'est d'abord l'histoire qui m'intéresse. Et puis le style graphique, le dessin, c'est vraiment en second plan. Et il est là pour supporter l'histoire et c'est pas l'inverse, quoi. Parce que je rencontre beaucoup de gens qui font de la BD parce qu'ils aiment dessiner et pas forcément parce qu'ils aiment raconter des histoires. Et donc du coup, bah, ça donne des BD très belles, mais pas forcément très intéressantes. Mais dans tous les domaines confondus, hein, je pense que le plus important, c'est ce qu'on raconte, quoi. C'est le fond des choses. Et donc, que ce soit en film, en jeu vidéo, en animation ou en bande dessinée, si l'histoire n'est pas intéressante, bon, c'est un petit peu vain, je trouve.
Et on parlait des projets BD futurs, mais est-ce que vous avez d'autres projets autres que la bande dessinée ? Parce que, comme on disait, bon, il y a l'animation dans votre vie, etc. Vous
bah, êtes alors, en sur fait, j'ai des projets d'histoire. Et je ne me dis pas dans ma tête, ça va être une BD, ça va être un film. J'ai juste des projets d'histoire. Voilà, j'ai des idées en tête, des scénarios. Et après, je les adapte en fonction de l'opportunité qu'on me donne à ce moment-là. S'il y a des producteurs qui viennent me voir en me disant « Vas-y, on est chaud de te produire un film. Bon, bah, mon prochain truc, je le ferai en film, en fait. » Je le ferai pas en BD, c'est vraiment une question d'opportunité au final. Moi, j'ai juste des univers et des idées d'histoire en tête, quoi. Et je prends ce qu'on me donne en termes d'opportunité, de concrétisation, tout ça. Voilà, la BD, je pensais pas en faire un jour. On me l'a proposé, on m'a dit, voilà, tu veux faire une BD ? Je dis oui, j'y vais. Mais voilà, j'aurais aimé que ça soit un film à la base. Mais l'histoire, elle est racontée maintenant et je suis hyper satisfait, quoi. C'était juste, je voulais que ça soit un film parce que je faisais des films, en fait. Donc je m'étais pas posé la question, est-ce que je vais le faire autrement qu'en film ? Donc, ouais, ce que j'aime, c'est raconter. Et je m'en fous que ça soit une BD, un film ou un jeu vidéo. Ouais.
Oui, peu importe le support.
Peu importe, ouais.
Et là, il y a quelque chose de concret, quand même, en projet ?
Alors, peut-être une adaptation en film de Jean Do.
Oui.
J'ai différents producteurs qui sont intéressés. Et voilà, donc j'ai un rendez-vous la semaine prochaine, on va en reparler. Ça serait vraiment trop cool. Parce que ça apporterait vraiment beaucoup de choses, je pense. D'avoir des comédiens, des accessoires, on pourrait vraiment s'éclater et faire plein de choses que j'ai pas eu le temps de faire dans la BD. Approfondir tous les personnages, ça serait vraiment, vraiment très cool. Soit en film, soit en série. Mais vraiment film-film, hein, pas en dessin animé ou quoi, ça serait avec des comédiens et tout. Là, je kifferais trop.
Merci d'être venu.
Ouais, merci, c'est gentil.